Chapitre 11. Rançon. Au signe suivant, on peut reconnaître l'enfant qui présente une prédisposition à l'art. S'il descend de parents eux-mêmes artiseurs, s'il gagne souvent au jeu d'adresse physique alors que ses adversaires commettent des erreurs, perd de courage ou joue mal, s'il possède des souvenirs qui ne peuvent lui appartenir, s'il rêve, que ses rêves sont précis et qu'il renferme des connaissances qui dépassent son expérience. D'un fil d'aiguille, maître d'art du roi Manieur. Le tertre s'étendait sur le versant de la colline, au-dessus de nous. Il tombait une bruine fine, comme de la brume, mais opiniâtre, et l'herbe épaisse était gorgée d'eau. Mes forces m'abandonnèrent soudain, et je me sentis incapable de rester debout, encore plus de soutenir le prince. Je me laissai tomber à genoux et allongeai de voir par terre. Ses yeux étaient ouverts, mais ne voyaient rien. Seule sa respiration un peu rauque m'indiquait qu'il n'était pas mort. Nous avions regagné Serres, mais notre situation ne s'était qu'à peine améliorée par rapport à notre départ. Nous étions tous les deux trempés de la tête aux pieds. Au bout d'un moment, je pris conscience d'une odeur étrange et je me rendis compte que le pilier, derrière nous, irradiait de la chaleur. L'odeur provenait de l'évaporation qui se produisait à sa surface. Néanmoins, je jugeais préférable d'affronter le froid plutôt que de nous rapprocher trop de la colonne. La figurine pendait toujours au bout du cordon emmêlé dans les doigts du garçon. Je la dégageais, enroulais le fil et fourrais le tout dans ma besace. Le prince ne réagit pas. De voir ? Je me penchai pour me placer dans l'axe de son regard, mais il n'accommoda pas sur mon visage. La bruine tombait sur sa figure et dans ses yeux. Je lui tapotai doucement la joue. « Prince de voir, vous m'entendez ?» Il cligna lentement les paupières. Ce n'était pas grand-chose, mais cela valait mieux que rien. « Ne bougez pas. Reposez-vous. Vous allez vous remettre dans un petit moment. » Je n'étais pas sûr que ce fût la vérité, mais je le laissai sur l'herbe mouillée et gravis le tertre. Du sommet, j'observais les environs sans repérer aucune présence humaine. Il n'y avait d'ailleurs guère à voir, à part des collines à perte de vue et quelques bosquets d'arbres clairsemés. Des étourneaux virèrent dans le ciel, à l'unisson, et se posèrent pour se nourrir avec force criaillerie. Une forêt se dressait au bout de la prairie. Rien ne paraissait présenter de menace immédiate, mais rien non plus ne laissait espérer que nous puissions trouver à manger, à boire et à nous abriter à proximité. Pourtant, de voir en aurait sans doute eu fort besoin, et je craignais que, sans cela, il ne sombre davantage dans son insensibilité. Mais ce que je voulais, moi, était encore plus simple. Je voulais savoir si mes amis étaient vivants, et hors de toute raison, j'avais envie de tendre mon esprit vers mon loup, de l'appeler à plein vif en y mettant tout mon cœur. Je savais toutefois que je ne pourrais agir de façon plus stupide et plus irresponsable, car non seulement j'avertirais tous les vifiers de la région de ma présence, mais je les préviendrais aussi que j'allais au secours de mes compagnons. Par un effort de volonté, je mis de l'ordre dans mes pensées. Il me fallait un refuge, et d'urgence. La femme et la Marguette devaient chercher constamment le prince à l'aide du vif. Peut-être même était-elle déjà en route pour s'emparer de lui. L'après-midi glissait doucement vers le soir. Devoir m'avait annoncé que si je ne l'avais pas rendu au pis, au coucher du soleil, ils exécuteraient Œil de Nuit et le fou. Par conséquent, je devais mettre Devoir en sûreté avant que la femme ne nous repère, puis découvrir seul où il détenait mes amis et les délivrer, le tout avant le coucher du soleil. Je réfléchissais furieusement. L'auberge la plus proche que je connaissais était celle du prince Pi, et on n'y ferait sûrement pas bon accueil aux garçons, mais, d'un autre côté, il y avait un long chemin à parcourir avant d'atteindre Castelserre, dont la traversée d'un fleuve en bac. J'avais beau me creuser la cervelle, je ne voyais pas d'autre possibilité que ces deux refuges-là. Dans l'état où Devoir se trouvait, je ne pouvais pas l'abandonner sur place, et un nouveau passage dans le pilier détruirait définitivement son esprit, même si nous en sortions physiquement indemnes. Encore une fois, je balayais du regard le paysage sauvage, acculé à l'évidence. J'avais certes le choix entre plusieurs solutions, mais tout était mauvaise. Je pris impulsivement une décision. Nous allions nous mettre en route et j'essaierai, chemin faisant, de trouver une idée. Je jetai un dernier regard aux alentours avant de descendre du tertre, et j'aperçus alors du coin de l'œil, moins qu'une silhouette, un mouvement derrière un bouquet d'arbres. Je me tapis au sol, les yeux fixés sur le bosquet, et un animal en sortit quelques instants plus tard. C'était un cheval, grand et noir. Ma noire. Elle tourna la tête vers moi. Je me redressai lentement. Elle était trop loin pour que je me donne la peine de tenter de la rattraper. Elle avait dû s'enfuir quand les pies avaient capturé Œil de Nuit et le fou. Et Malta, qu'était-elle devenue? Je restai encore un moment à observer la jument, mais elle se contenta de me rendre mon regard, sans faire mine de me rejoindre. Pour finir, je me détournai et redescendis auprès du prince. Il était toujours plongé dans l'hébétude, mais au moins, il avait réagi à la pluie froide en se roulant en boule, tout frissonnant. L'inquiétude que je ressentais pour lui se mêlait d'un espoir coupable. Peut-être, dans son état, était-il incapable de se servir du vif pour indiquer notre position au pis. Je posai une main sur son épaule et dis d'une voix la plus douce possible « Levez-vous et marchons. Ça va nous réchauffer. » J'ignore s'il comprit mes paroles. Il conserva un regard vide pendant que je l'aidais à se redresser, et, une fois debout, il courba le dos, les bras croisés sur la poitrine. Il continuait à trembler. « Allons, en route, » fis-je. Mais il ne bougea pas. Je dus passer mon bras autour de sa taille et ordonner « Accompagnez-moi. » Il obéit alors, mais d'une démarche titubante, maladroite, et c'est à une allure d'escargot que nous descendîmes la colline. Je mis du temps à me rendre compte que j'entendais des bruits de sabots derrière nous. Quand j'en pris enfin conscience, je jetai un coup d'œil en arrière et vis ma noire. Mais, quand je fis halte, elle s'arrêta, elle aussi. Je lâchai le prince qui commença aussitôt à s'effondrer lentement sur lui-même, et la jument adopta une attitude méfiante. Je redressai de voir, et comme nous reprenions notre lent cheminement, je perçus à nouveau le son syncopé du pas de ma noire qui nous suivait. Je ne lui prêtai aucune attention jusqu'à ce qu'elle nous eût pratiquement rattrapés. Alors, je m'assis, devoir appuyer contre moi, et attendis que la curiosité de la jument l'emporte sur sa nature soupçonneuse. Même quand je sentis son haleine sur ma nuque, je feignis de ne rien remarquer, mais je glissai une main subreptice dans mon dos et saisis les rênes. Ce fut presque un soulagement pour elle, je crois. Je me levai lentement et caressai son encolure. Sa robe était striée de bave à demi séchée et le cuir de son équipement était humide. Elle avait réussi à brouter malgré son mort, et elle avait dû essayer de se rouler par terre, car de la boue maculait tout un côté de sa selle. Le cercle que je lui fis parcourir lentement confirma mes craintes. Elle boitait. Un animal, peut-être un des molosses au vif, avait tenté de la poursuivre, mais sa rapidité l'avait sauvée. J'étais d'ailleurs stupéfait qu'elle fût demeurée dans la région, et encore plus, qu'elle fût venue à moi en me voyant. Malheureusement, elle ne pourrait pas nous emporter dans un galop effréné vers un lieu sûr. Notre progression se ferait au mieux d'un pas claudiquant. J'essayais de convaincre par la douceur le prince de se lever et de monter à cheval, mais c'est seulement quand je perdis patience et lui ordonnai d'un ton exaspéré de grimper sur ce fichu canasson qu'il obéit. Il ne réagissait pas à la conversation, mais il se pliait aux ordres simples que je lui donnais. Je mesurai alors la profondeur de l'empreinte d'art que je lui avais imposée et la solidité du lien qui nous unissait. « Ne me résistez pas !» avais-je commandé. Et une partie de lui-même interprétait ces mots comme « ne me désobéissez pas ». Pourtant, malgré sa coopération, sa mise en selle se révéla une manœuvre délicate et, une fois que je l'eus hissé en place, je craignis qu'il ne tombât de l'autre côté. Je ne tentais même pas de monter derrière lui. Ma noire ne l'aurait probablement pas accepté. Je pris donc la jument par la bride et la menai à pied. Le prince se balançait mollement au rythme irrégulier de la monture, mais il restait en selle. Il avait une mine épouvantable. Toute maturité enfuie, ses traits laissaient voir un enfant malade aux grands yeux fixes, cernés de noir et à la bouche avachie. On l'eût cru à l'agonie. Cette éventualité me frappa comme un coup de masse, et je sentis une poigne glacée enserrer mon cœur. le prince mort, la fin de la lignée des loin-voyants, et l'éclatement des six duchés. Une mort ignoble et atroce pour Orti. Non, cela ne se pouvait pas. Je ne devais pas le permettre. En pénétrant dans un petit bois aux arbres clairsemés, nous dérangeâmes un corbeau qui s'envola en croassant, comme un prophète de malheur. On eût dit un signe de mauvais augure. Au bout de quelque temps, je me surpris à parler au prince et à la jument. J'avais retrouvé inconsciemment la cadence apaisante et les mots rassurants que Burick employait dans mon enfance. « Allons, tout ira bien. Là, là, le pire est passé. Ça va, ça va. » Je me mis ensuite à fredonner, et je m'aperçus là encore que j'avais repris un air que Burick chantait souvent tout bas, quand il soignait des chevaux blessés ou s'occupait de juments en train de pouliner. La mélodie familière me calma et me rasséréna davantage, je crois, que Manoir ou le prince. Et bientôt je parlais tout haut en m'adressant autant à moi qu'à eux. On dirait qu'Imbre avait raison. Vous artiserez quoi qu'il arrive, qu'on vous forme ou non. Et j'ai bien peur qu'il en aille de même pour le vif. Vous l'avez dans le sang, et au contraire de certains, on n'arrivera pas à vous en faire passer le goût en vous rouant de coups. Je ne crois d'ailleurs pas que ce soit souhaitable. En revanche, il ne faut pas vous y jeter à corps perdu comme vous le faites. Ce n'est pas très différent de l'art à tout prendre. Chacun doit s'imposer des limites à soi-même et à sa magie. Établir ses propres bornes participe du fait d'être un homme. Alors, si nous nous tirons de cette affaire vivant et indemne, je deviendrai votre professeur, et le mien aussi, je pense, par la même occasion. Il est sans doute temps que je me plonge dans tous ces vieux manuscrits sur l'art pour découvrir ce qu'ils recèlent. Je ne vous cacherai pas que ça m'effraie. Depuis 2 ans, l'art réapparaît en moi comme une espèce d'ulcère qui s'étend peu à peu, et j'ignore où il m'emmène. Or, j'ai peur de ce que je ne sais pas. C'est le loup en moi qui réagit ainsi, je suppose. Par le souffle d'Eda, pourvu qu'il soit sain et sauf, et mon fou aussi. Pourvu qu'il ne souffre pas, ou qu'il ne soit pas en train de mourir simplement parce qu'il me connaissait. C'est curieux, je trouve. On ne se rend compte de l'importance de quelqu'un dans sa vie que quand il est en danger de mort. On se dit qu'on ne pourra pas continuer à vivre s'il lui arrive malheur. Mais le plus effrayant, c'est qu'en réalité, on va continuer à vivre. On ne peut pas faire autrement, avec ou sans lui. La seule question, c'est ce qu'on va devenir. Que va-t-il advenir de moi si Œil de Nuit est mort? Je songe souvent à Petit Furet que j'ai croisé il y a bien des années. Il poursuivait aveuglément son existence, alors qu'il ne restait plus dans son esprit minuscule que l'idée de tuer. Et ma Marguette ? Le prince avait parlé à mi-voix. Je ressentis un immense soulagement. Sa conscience était suffisamment intacte pour lui permettre de s'exprimer. En même temps, je me repassais rapidement mon monologue, sans queue ni tête, et formais le vœu qu'il n'y eût pas prêté trop d'attention. Comment allez-vous, mon prince ?
Je ne sens plus ma Marguette.
Il y eut un long silence, puis je déclarai « Je ne sens plus mon loup non plus. Il éprouve parfois le besoin de se couper de moi. » Il se tut si longtemps que je craignis une rechute dans sa stupeur. Mais enfin il répondit
« Non, ce n'est pas l'impression que j'ai. Elle nous maintient à l'écart l'un de l'autre. J'ai le sentiment d'une punition. »
D'une punition pourquoi ? J'avais pris un ton uni et léger, comme si nous parlions du temps qu'il faisait.
Parce que je ne vous ai pas tué. Parce que je n'ai même pas essayé. Elle ne comprend pas ce qui m'en empêche. Et je ne peux pas le lui expliquer. Mais cela la met en colère contre moi.
Il s'exprimait du fond du cœur, avec simplicité, comme si j'avais devant moi la personne qui se cachait jusque-là derrière les manières et les artifices de la bonne société. Notre passage dans le pilier d'art l'avait dépouillé de nombreuses enveloppes protectrices, et il était à présent à nu. Il parlait et raisonnait comme le font les soldats quand ils endurent de grandes souffrances, ou les malades quand ils cherchent à écarter le voile de la fièvre. Toutes ses défenses étaient tombées, et, à l'entendre, on aurait pu croire qu'il me faisait confiance. Je jugeais pourtant préférable
de ne pas trop l'espérer. C'était seulement à cause des épreuves qu'il venait de traverser qu'il s'ouvrait ainsi à moi, et rien de plus. Je choisis mes mots avec soin. Elle est avec vous, en ce moment, la femme. Il hocha lentement la tête. Elle est toujours avec moi désormais. Elle ne me laisse pas seule à mes réflexions. Il avala sa salive et poursuivit d'un ton hésitant. Elle ne veut pas que je vous parle, ni que je vous écoute. C'est dur. Elle me harcèle sans cesse. Avez-vous envie de me tuer ? Il se tut à nouveau avant de répondre, comme s'il devait digérer mes propos après les avoir entendus, et quand il parla enfin, il négligea ma question. Vous avez affirmé qu'elle était morte. Cela l'a mise très en colère. Parce que c'est la vérité. Elle a dit qu'elle m'expliquerait plus tard que cela devait me suffire. Il ne me regardait pas, et quand je me penchais vers lui, il détourna le visage comme pour éviter de me voir. Et puis elle est devenue moi, et elle vous a attaqué avec le poignard, parce que je ne l'avais pas fait. Je n'arrivais pas à savoir s'il avait du mal à débrouiller ses pensées, ou bien s'il avait honte. N'était-ce pas plutôt parce que vous n'aviez pas voulu le faire ? Demandai-je. Oui, je n'avais pas voulu, dit-il, et je restai stupéfait du soulagement que me procura ce petit aveu. Il avait refusé de me tuer. Ce n'était donc pas mon ordre d'art qui l'avait retenu comme je le croyais. Je n'avais pas voulu lui obéir. Il m'est déjà arrivé de la décevoir, mais cette fois, elle est vraiment en colère contre moi. Et la Marguette et elle vous punissent de cette désobéissance en se coupant de vous. Lentement, gravement, il secoua la tête. Non, pas la Marguette. Que je vous tue ou non, lui est égal. Si cela ne tenait qu'à elle, elle resterait toujours avec moi. Mais la femme, elle est déçue que je ne lui sois pas plus fidèle. Alors elle nous sépare, la Marguette et moi. Elle considère que j'aurais dû tout faire pour prouver que j'étais digne d'elle. Comment peuvent-ils me faire confiance si je refuse de faire la démonstration de ma loyauté ?
Et cette démonstration consiste à tuer quand on vous en donne l'ordre ?
Il se tut un long moment, ce qui me laissa le temps de réfléchir. Moi-même, j'avais tué quand on m'en avait donné l'ordre. C'était compris dans mon allégeance à mon roi, dans le marché que j'avais passé avec mon grand-père. Il prenait en charge mon éducation à condition que je lui jure fidélité. Je pris alors conscience que je ne voulais pas voir le fils de Kétriken lié par un serment aussi contraignant. Il soupira. Cela va encore plus loin. Elle veut décider seule de tout, d'absolument tout, et tout le temps. Comme quand elle dit à la Marguette quel gibier chasser, à quel moment, et qu'elle lui prend ses proies. Lorsqu'elle nous tient contre elle, on dirait de l'amour, mais elle peut aussi nous garder à distance sans pour autant nous lâcher. Il vit que je ne comprenais pas, et au bout d'un moment il déclara « Je n'ai pas aimé qu'elle se serve de moi contre vous. Même si elle n'avait pas tenté de vous tuer, cela ne m'aurait pas plu. Elle m'a écarté, et j'ai eu la même impression que lorsque… » Il renâclait à l'avouer, et j'admirais qu'il s'y forçât. Que lorsqu'elle écarte la Marguette, quand elle n'a pas envie d'agir en félin, quand elle en a assez de faire sa toilette ou ne veut pas jouer. La Marguette non plus n'aime pas ça, mais elle ne sait pas comment résister. Moi, j'ai réussi. Je l'ai repoussée, et ça ne lui a pas plu. Elle n'a pas apprécié non plus que la Marguette en soit témoin. Je pense que ma résistance est la raison principale de ma punition. Il secoua la tête, stupéfait de sa propre hardiesse, puis me demanda. Je l'aperçois comme parfaitement réelle. Comment pouvez-vous être sûr qu'elle est morte ? L'eussais-je désiré, je n'aurais pas pu lui mentir. Je le sens, et Œil de Nuit aussi. Il dit que la Marguette est complètement parasitée par elle, comme si son organisme était rongé de vermine. Il éprouve de la peine pour elle. fit-il très bas. Je lui jetai un coup d'œil et lui trouvai le teint plus grisâtre que pâle. Son regard devint lointain et il se plongea dans ses souvenirs. Quand je l'ai reçue en cadeau, elle adorait que je la brosse et sa fourrure était comme de la soie. Mais, après notre départ de Castelserre, elle avait parfois envie que je m'occupe d'elle et la femme répondait toujours que ce n'était pas le moment. Chatte a perdu du poids et sa robe est devenue rêche. Je m'inquiétais, mais la femme repoussait mes soucis en prétendant que c'était une question de saison, que cela passerait. Et je la croyais, alors même que la Marguette exprimait le désir de se faire brosser. Il avait l'air bouleversé. « Je n'ai pris aucun plaisir à vous en avertir, » dis-je. « Ça n'a plus d'importance, je crois. » Je me tus un long moment pendant que la jument à la bride, je m'efforçais de comprendre la signification de sa dernière réponse. Était-ce mes regrets qui n'avaient pas d'importance, ou bien le fait que la femme fût morte? Elle a réussi à me convaincre sur de nombreuses questions, mais je savais déjà que... Ça y est, ils arrivent. C'est le corbeau qui les a prévenus. Je sentis du remords dans sa voix quand il déclara d'un ton hésitant. En se fondant sur les anciennes légendes, ils ont compris qu'ils devaient surveiller la pierre dressée. Mais la femme m'a interdit de vous le révéler, jusqu'à présent, et il ne vous sert plus à rien de le savoir. Elle trouve même cela plutôt amusant. Il se redressa soudain sur la selle et son visage s'anima. « Oh, chatte !» fit-il dans un souffle. Je sentis l'affolement me gagner, et je tentai de le maîtriser. Un rapide tour d'horizon ne me montra ni homme, ni animal, mais le prince avait affirmé qu'ils arrivaient, et j'avais la conviction qu'il n'avait pas menti. Tant qu'ils restaient à la fois auprès de moi et liés à sa Marguette, je n'avais aucune chance de les semer. Même si je montais derrière Devoir sur ma noire et que je la crevais à la course, nous n'arriverions pas à leur échapper. Nous nous trouvions trop loin de Castelserre et je n'avais pas d'autre refuge ni aucun allié. Eux, ils avaient en plus un corbeau qui montait la garde. J'aurais dû m'en douter. Sans plus chercher à me cacher, je tendis mon esprit vers mon loup. Au moins, je saurais s'il était vivant. Je le touchais. Mais la vague de douleur qui me submergea était atroce, et ce que je découvris alors était encore pire que l'ignorance de son sort. Il était vivant, il souffrait, et il m'excluait pourtant de ses pensées. Je me jetai contre ses murailles, mais elles restèrent inébranlables, si farouchement solides que je me demandais s'il avait seulement conscience de ma présence. L'image me vint d'un soldat qui refuse de lâcher son épée alors qu'il n'est plus capable de s'en servir, ou de deux loups qui se broient mutuellement la gorge entre leurs mâchoires et agonisent ensemble. Dans ce fugitif instant, durant cette respiration déchirante, les pies apparurent. Certains surgirent au sommet de la colline que nous longions, d'autres sortirent de la forêt sur notre gauche, et une demi-douzaine arriva derrière nous sur la prairie. Je reconnus parmi eux l'homme de grande taille au cheval de combat. Le corbeau passa au-dessus de nous en poussant un croassement moqueur. Je cherchais une faille dans le cercle, qui se refermait sur nous, mais en vain. Le temps que je monte sur ma noire et fonce vers une ouverture, il l'aurait bloqué. La mort s'approchait de moi de toutes les directions. Je m'arrêtai pour dégainer mon épée, et il me vint l'idée saugrenue que j'aurais préféré mourir avec celle de vérité plutôt qu'avec cette arme de simple garde. L'épée ne se précipitait pas. Non, il convergeait vers moi au pas, comme un nœud coulant qui se resserre lentement. Peut-être s'amusait-il de me voir impuissant, obligé de les regarder s'approcher sans rien pouvoir faire, mais cela me laissa le temps de réfléchir. Je rengainai mon épée, puis sortis mon poignard. « Pied à terre, » dis-je à mi-voix. Devoir me regarda, un peu interloqué. « Descendez de cheval, » ordonnai-je, et il obéit. Je dus le retenir pour l'empêcher de tomber avant qu'il pose son deuxième pied au sol. Je passai un bras autour de lui et posai délicatement la lame de mon arme sur sa gorge. « Je regrette, » dis-je avec sincérité, mais une sincérité qui me glaçait les sangs. « Il vaut mieux que vous mouriez plutôt que de subir le sort que la femme vous réserve. » Il demeura parfaitement immobile. Était-ce la peur qui l'empêchait de résister, ou bien le désespoir? « Comment savez-vous ce qu'elle projette ?» me demanda-t-il d'un ton uni. Je sais ce que je ferai à sa place. »
Ce n'était pas tout à fait exact. Jamais je ne m'emparerais du corps et de l'esprit d'autrui dans le seul but de prolonger mon existence. J'avais l'âme trop noble pour cela, si noble que j'étais prêt à tuer mon prince pour éviter qu'on l'utilise ainsi, si noble que j'étais prêt à le tuer en sachant que je signerais du même coup l'arrêt de mort de ma fille. Préférant ne pas pousser trop loin ce raisonnement, mon poignard sur la gorge du seul héritier de vérité, je regardais les pies approcher. Quand j'estimais qu'il pouvait m'entendre, je criais « Arrêtez-vous, ou je le tue !» L'homme au cheval de bataille était le chef. Il leva la main pour signaler à ses compagnons de faire halte, mais continua lui-même d'avancer, comme s'il voulait mettre ma détermination à l'épreuve. Sans le quitter des yeux, je resserrai ma prise sur le garçon. « Un seul geste de ma part, et le prince est mort » fis-je.
« Allons, ne dites pas de bêtises !» répondit l'homme en continuant de s'approcher.
Manoir émit un reniflement interrogateur à l'intention de sa monture.
« Que comptez-vous faire, si nous obéissons bien gentiment ? Restez au milieu de nous en attendant de mourir de faim ?»
Je modifiai ma menace.
« Laissez-nous partir ou je le tue !»« C'est idiot, ça aussi !» Où est le profit pour nous? Si nous ne pouvons pas le récupérer, autant qu'il meure. »
Sa voix grave et sonore portait bien. C'était un bel homme au visage hâlé qui se tenait à cheval comme un guerrier, et en d'autres circonstances, je l'aurais jugé digne de mon amitié. Mais ses compagnons s'esclaffaient de mes efforts pitoyables pour le tenir en échec. Il s'avançait toujours vers moi. Son grand cheval levait haut les pattes, et ses yeux brillaient du lien de vif qu'il partageait avec son cavalier.
« Songez aussi à ce qui se passera si vous le tuez devant nous. Nous serons tous extrêmement contrariés, et vous n'aurez toujours pas une chance de vous en tirer. Vous n'arriverez sans doute même pas à nous forcer à vous abattre rapidement. Voici donc ma contre-proposition. Vous nous rendez le garçon et nous vous accordons une mort prompte. Vous avez ma parole. »
Quelle générosité! Pourtant, son attitude solennelle et ses paroles soigneusement pesées me convainquaient qu'il tiendrait son serment. Et mourir vite me paraissait une perspective séduisante quand je la comparais aux autres possibilités. Mais l'idée de périr sans avoir le dernier mot me faisait horreur.
« Très bien, » dis-je, « mais il vous en coûtera plus que ma vie. Relâchez le loup et l'homme doré. Alors, je vous remettrai le prince et vous pourrez me tuer. »
Dans le cercle que formaient mon bras et mon poignard, Devoir ne bougeait pas. C'était à peine si je le sentais respirer. Pourtant, je percevais l'attention avec laquelle il écoutait mes propos, comme s'il les absorbait à l'instar d'une terre desséchée qui absorbe la pluie. Le fil arachnéen du vif qui nous reliait m'avertit qu'il se passait quelque chose. Il cherchait à contacter quelqu'un à l'aide de son mélange contre-nature d'art et de vif. Je bandais les muscles, prêt à lutter si la femme prenait la maîtrise de son corps.
« Est-ce un mensonge ?»
me demanda-t-il d'une voix si basse que j'eus peine à l'entendre. Mais était-ce le prince qui me posait cette question, ou bien la femme?
Non, c'est la vérité,
répondis-je en mentant avec sincérité. S'il relâche le loup et le seigneur doré, je vous rendrai la liberté.
En vous donnant la mort, et la deuxième gorge que je trancherai sera la mienne.
L'homme au grand cheval émit une sorte de petit rire.
« C'est trop tard, malheureusement. Ils sont déjà morts. »« Non, c'est faux. »« C'est faux. »
Il fit encore avancer sa monture.
« Si le loup était mort, je le saurais. »
Il n'était plus obligé de crier pour se faire entendre de moi, et c'est d'un ton confidentiel qu'il dit.
« Et c'est pourquoi il est tout à fait anormal que vous vous opposiez à nous. » Je l'avoue, je suis prêt à repousser le moment de votre mort, rien que pour entendre votre réponse à une question. »
Son regard était devenu chaleureux et sa voix vibrait d'une curiosité non feinte.
« Pourquoi, au nom d'Eda et d'elle, qui embrassent à la fois la vie et la mort, vous dressez-vous ainsi contre vos semblables ? Vous réjouissez-vous de ce que nous subissons ?
Des flagellations, des pendaisons, des démembrements et des incinérations.
Pourquoi soutenir cet état de fait ?»
Je répondis d'une voix assez forte, pour être audible de tous.
« Parce que ce que vous voulez infliger à ce garçon est ignoble. Ce que la femme a fait subir à la Marguette est ignoble. Vous vous donnez le nom de Pi, et vous vous enorgueillissez de votre parentage, mais vous agissez à l'encontre de tous les enseignements du lignage. Comment pouvez-vous excuser ce qu'elle a fait à la Marguette, et pire encore, le sort qu'elle réserve au prince ?»
Le regard de l'homme devint glacé. C'est un loin voyant. Tout ce qu'il peut subir, ne l'a-t-il pas mille fois mérité ? À ces mots, Devoir se raidit.
L'eau de vin ? Est-ce vraiment le fond de votre pensée ?
Sa voix d'enfant qui ne veut pas croire ce qu'il a entendu était déchirante.
Mais tous les discours si nobles que vous m'avez tenus pendant que nous chevauchions ensemble, vous disiez que j'allais devenir le roi qui unirait tous ses sujets sous une justice égale. Vous disiez...
L'Audevin secoua la tête avec mépris devant la crédulité du prince.
« J'aurais dit n'importe quoi pour vous convaincre de nous suivre. J'ai gagné du temps en vous abreuvant de belles paroles, jusqu'à ce que le lien soit assez solide, et ce que j'ai observé chez la Marguette m'indique que la tâche est achevée. Péladine peut désormais s'emparer de vous quand elle le veut. Ce serait déjà fait si vous n'aviez pas un couteau sur la gorge, mais elle n'a pas envie de mourir une deuxième fois. La première lui a amplement suffi. Elle est morte lentement, en toussant et en suffoquant, chaque jour un peu plus faible. Même la mort de ma mère a été plus rapide. Pourtant, bien qu'on l'ait pendue, elle était encore vivante lorsque la hache l'a découpée en morceaux qu'on a jetés au feu. Quant à mon père, ma foi, je suis convaincu que le temps que les soldats de Royal Loinvoyant ont mis à exécuter ma mère sous ses yeux a dû lui sembler durer des années.
Il sourit, à Devoir, d'un air sinistre.
Comme vous le constatez, les relations de ma famille avec les Loinvoyants ne datent pas d'hier. Votre dette est ancienne, prince Devoir, et je crois que les seuls moments agréables de la dernière année de Péladine ont été ceux où nous avons tiré nos plans pour vous. Il n'est que justice qu'un Loinvoyant rende une vie en échange de celle qu'on m'a volée.
Telle était donc la semence de haine d'où tout avait germé. Une fois de plus, les Loinvoyants portaient mal leur nom. Ils n'avaient pas regardé loin pour voir d'où provenait leur mauvaise fortune. Le piège qui s'était refermé sur le prince avait été construit par la morgue et la barbarie de son oncle. Moi aussi, j'étais le légataire du ressentiment que Royal avait suscité contre sa famille, mais je fermais mon cœur à la sympathie que je sentis monter en moi pour ces gens qui m'entouraient. Les Pis restaient mes ennemis. Quelles que fussent les horreurs qu'ils avaient subies, ils n'avaient aucun droit de s'en prendre aux petits.
Et qu'était Péladine pour vous,
l'eau de vin ? Demandai-je posément. Je croyais connaître la réponse, mais une surprise m'attendait.
C'était ma sœur jumelle. Et elle me ressemblait autant qu'une femme peut ressembler à un homme. Elle disparut. Je reste le dernier de ma lignée.
Cette raison vous suffit-elle ?
Non, mais à vous si.
Vous êtes prêt à tout pour la voir revivre dans une enveloppe humaine,
Vous êtes prêt à l'aider à voler la chair de ce garçon pour y abriter son esprit, même si cela va à l'encontre des enseignements les plus sacrés du lignage. » Je m'étais exprimé avec la ferveur du juste, mais si mes propos émurent certains des hommes présents, ils n'en manifestèrent rien. L'Audevin tira les rênes à une longueur d'épée du prince et de moi, et il se pencha pour planter ses yeux dans les miens. « Il ne s'agit pas seulement du chagrin d'un frère pour sa sœur. Brisez les liens de servitude qui vous attachent au loin voyant et réfléchissez par vous-même. Réfléchissez comme vos semblables. Oubliez nos vieilles coutumes qui nous obligent à nous limiter. Le lignage est un présent d'Eda et nous devons l'employer. Nous avons une occasion inespérée. Nous avons la possibilité de nous faire entendre. Que les loin voyants reconnaissent enfin la vérité des légendes. Leur sang charrie le vif au même titre que l'art. Ce garçon deviendra roi un jour. Nous pouvons en faire l'un des nôtres. Et quand il montera sur le trône, il mettra fin aux persécutions que nous endurons depuis trop longtemps. » Je me mordis la lèvre d'un air pensif. Mais l'Audevin était loin de se douter de la décision dont je pesais les termes. Si je lui livrais le prince, la lignée des loin-voyants aurait encore un héritier, du moins en apparence. Orti pourrait vivre sa vie, libre des raies du destin, et peut-être même résulterait-il du bien de cette solution pour le lignage et les six duchés. Il me suffisait pour cela d'abandonner devoir à une existence de tourment. Le fou et mon loup retrouveraient la liberté. Orti resterait en vie, et les souffrances du lignage cesseraient peut-être enfin. Et qui sait, si je ne parviendrais pas à sauver ma propre vie. Pour tout cela, je n'avais qu'à me débarrasser d'un gamin que je connaissais à peine. Une seule existence en échange de plusieurs autres. Je pris ma décision. Si je pensais que vous dites la vérité, fis-je, puis je m'interrompis et regardai l'Audevin dans les yeux. Vous vous rallieriez peut-être à nous ? Il voyait en moi un homme qui n'avait plus le choix qu'entre la mort et le compromis. J'affichai une expression hésitante, puis hochai imperceptiblement la tête. D'une main, j'entr'ouvris mon col afin d'exposer l'amulette de Gina. Silencieusement, j'implorai mon interlocuteur. « Aime-moi, crois ce que je te dis, souhaite que je devienne ton ami. » Puis je débitai mon discours de poltron. « Je pourrais vous être utile, Audevin. » La reine a envoyé Sire Doré lui ramener le prince de voir. Si vous le tuez et que le prince revienne seul, on va se demander ce qui est arrivé à Doré. En revanche, si vous nous laissez la vie sauve et que nous revenions à Castelserre avec le prince, je trouverai sans mal une explication au changement de comportement du gamin, et on l'acceptera sans poser de questions. » Il me parcourut lentement du regard, et je sentis qu'il se laissait persuader. « Et Sire Doré confirmerait vos propos ?» J'eus un petit rire de dérision. Il n'a pas le vif. Il verra seulement que nous avons récupéré le prince sain et sauf, et il ne pensera qu'à son retour triomphal à la cour. Il croira que j'ai négocié la liberté du prince, et il ne sera que trop heureux de s'en attribuer le mérite. D'ailleurs, il sera témoin de la négociation. Emmenez-moi là où vous le retenez. Jouons-lui une petite comédie, puis relâchez-le en compagnie de mon loup, en l'assurant que le prince et moi le rattraperons sous peu. » Je hochai la tête d'un air avisé, comme pour confirmer mon idée. Il vaudrait même mieux attendre qu'il se soit assez éloigné. Il ne faut pas qu'il assiste à la prise de possession du garçon par la femme. Il risquerait de se demander ce qui arrive au prince, qu'il parte le premier. « Vous vous inquiétez beaucoup de sa sécurité, on dirait, » dit l'Audevin d'un ton légèrement soupçonneux. Je haussai les épaules.
Il me paye grassement pour un travail minime, et il tolère la présence de mon loup qui ne rajeunit pas, tout comme moi. Un poste comme celui-là, on y tient. »
L'Audevin me fit un sourire de connivence, mais je lus dans ses yeux le secret mépris que lui inspirait mon attitude de larbin. J'ouvris davantage mon col. L'homme regarda de voir. Le garçon ne le quittait pas des yeux.
« Il y a un hic, » fit l'Audevin à mi-voix. « Le garçon n'a rien à gagner dans notre marché. Il risque de nous trahir auprès de Sire Doré. »
Je sentis devoir prendre son souffle pour répondre. Je resserrai mon étreinte sur lui pour lui intimer le silence pendant que je réfléchissais, mais il n'en tint pas compte. « Mon intérêt, c'est de rester en vie, » dit-il d'une voix nette. « C'est peut-être une piètre existence qui m'attend, mais je veux la passer dans ma marguette. Elle m'est fidèle, elle, même si votre sœur nous a trahis tous les deux. Je refuse de lui abandonner mon ami, et si on me dépouille de mon corps, c'est peut-être le prix que je dois payer pour m'être laissé berner par des pies et leurs promesses d'amitié et d'amour. »
Il parlait d'une voix ferme qui portait. Derrière l'Audevin, je vis deux cavaliers détourner le regard, comme mortifiés par ses paroles, mais aucun n'intervint. Un mince sourire étira les lèvres de l'Audevin. « Alors, notre accord est conclu. » Il tendit vers moi sa main libre, comme s'il voulait toper, mais il dit d'un air désarmant d'ingénuité. « Écartez votre poignard de la gorge du gamin. » Je lui répondis par un sourire carnassier. « Non, pas tout de suite. Si j'ai bien compris, cette Péladine peut s'emparer de lui à tout instant, n'est-ce pas ? Si cela se produit, vous risquez de considérer que vous n'avez plus besoin de moi, auquel cas vous pourrez m'éliminer et le garçon, une fois possédé, le rendre à Sire Doré pour qu'il le ramène à la cour. Non, on va faire ça à ma façon. En outre, il est possible que le gamin change d'avis sur ce que nous projetons. Le poignard lui rappellera que c'est ma volonté qui prime. Devoir allait-il percevoir la promesse qui se dissimulait dans mes propos ? Je ne quittais pas l'Audevin des yeux et conservais le même ton. « Je veux qu'on rende sa monture à Sire Doré, puis qu'on le libère ainsi que mon loup, et je veux en être témoin. Alors, une fois que je me serai assuré que vous tenez parole, vous ferez ce qu'il vous plaira du garçon et de moi. » C'était bien faible, comme blanc. Ma stratégie consistait à obliger les pies à nous amener auprès du fou et d'œil de nuit, mais elle n'allait pas plus loin. Je continuais à sourire sans quitter l'Audevin du regard, mais j'aperçus du coin de l'œil ses compagnons qui se rapprochaient discrètement de moi. Je tenais mon arme d'une main ferme. Plutôt, pendant les négociations, le prince avait agrippé mon poignet. Je m'en étais à peine rendu compte, car, bien qu'il parût chercher à repousser ma lame, il n'en était rien. J'avais même presque l'impression qu'il la retenait exprès contre sa gorge. « Très bien. Nous ferons comme vous voudrez, » déclara enfin l'Audevin. Monter sur ma noire sans cesser de menacer le prince fut une affaire délicate, mais nous en vînmes à bout. Devoir faisait une victime presque trop coopérative, et je craignais que l'Audevin n'eût des soupçons. J'aurais donné cher pour que le garçon eût été formé à l'art, mais le lien que nous partagions était trop mince pour me permettre de lire ses pensées, et Devoir ignorait comment concentrer son esprit sur le mien. Je percevais seulement son angoisse et sa détermination. Mais détermination à quoi faire, je n'en avais aucune idée. Manoir n'appréciait pas de porter double charge, et l'inquiétude me rongeait. Non seulement je risquais d'aggraver sa blessure, voire de l'estropier définitivement, mais si plus tard il se révélait nécessaire de prendre la fuite, elle serait déjà fatiguée et endolorie. Je ressentais chaque secousse de sa claudication comme un reproche. Malheureusement, je n'avais pas le choix. Nous suivions l'Audevin, encerclé par ses comparses qui me jetaient des regards venimeux. Je reconnus une femme que j'avais aperçue lors de notre brève échauffourée, mais je ne vis aucun des deux hommes avec lesquels je m'étais battu. Les anciens compagnons du prince ne manifestaient au garçon ni compassion ni amitié. Lui, sans paraître les voir, regardait droit devant lui, la pointe de mon arme sur les côtes. Nous fîmes demi-tour,
coupâmes par les collines et dépassâmes le tertre pour prendre la direction de la forêt. Le terrain que nous traversions était couvert de monticules aux formes étranges, et je finis par conclure qu'une ville avait dû s'étendre là d'innombrables années plus tôt. Prairies et bois avaient reconquis l'espace, mais sans aplanir le sol comme le fait le passage répété de la charrue. Les murs de séparation des pâtures s'étaient écroulés. La mousse les avait enveloppés et l'herbe s'y était installée, en même temps que les chardons et les ronces qui apprécient les terres caillouteuses. Nul ne vit éternellement, semblait proclamer ces murs. Quatre pierres empilées dureront plus longtemps que tes rêves et se dresseront encore quand tes descendants auront oublié que tu vivais ici. Devoir se taisait. Mon poignard restait pressé contre son flanc, et je pense que je n'aurais pas hésité à l'enfoncer si j'avais senti la femme s'emparer de lui. Il paraissait perdu dans ses pensées, et j'en profitais pour évaluer nos adversaires. Ils étaient 12, en comptant l'eau de vin. Nous arrivâmes enfin devant une caverne qui s'ouvrait dans le versant d'une colline. Longtemps auparavant, une enceinte de pierre avait été ajoutée pour créer une avancée, et les restes d'une porte de bois pendaient de guingois à l'ouverture. Je songeais aussitôt à une bergerie. L'aménagement était idéal pour garder des moutons la nuit. Avec la cavité qui fournissait un abri en cas de trop forte chute de pluie ou de neige. Manoir leva la tête et salua d'un hennissement Malta et les trois autres chevaux attachés dans le refuge. L'épi était donc 15 en tout, ce qui représentait un nombre considérable d'adversaires, même si je n'avais pas été seul. Je mis pied à terre en même temps que notre escorte et fis descendre le prince à ma suite. Il trébucha en touchant le sol et je dus le retenir. Ses lèvres bougeaient comme s'il se parlait tout bas, mais je n'entendais pas un mot, et son regard était lointain et vitreux. D'un geste ferme, je plaçai de nouveau le poignard sur sa gorge. « Si la femme tente de s'emparer de lui avant que mes compagnons aient été relâchés, déclarai-je, je le tue !» L'Audevin parut surpris de cette menace, puis il cria « Péladine !» Aussitôt, une marguette sortit d'un bond de la caverne, s'arrêta et, les yeux pleins de haine, s'avança lentement vers moi. Sa démarche était celle non d'un félin, mais d'une femme furieuse d'avoir été contrariée. Le prince observait l'animal. Il ne dit rien, mais je sentis le soupir haché qui lui échappa. L'Audevin s'approcha de la marguette, mit un genou en terre et lui murmura. « J'ai passé un marché. Si nous libérons ses amis, il nous livre le prince indemne. Mieux encore, il t'escorte jusqu'à Castelserre et s'arrange pour t'y faire accepter. » J'ignore si la créature lui fit un signe d'acceptation ou bien si l'Audevin supposa simplement qu'elle acquiesçait à ses propos. Quoi qu'il en fût, il se releva et déclara « Entrez, vos amis sont à l'intérieur. » J'éprouvais une effrayante réticence à le suivre. Au dehors, il nous restait une petite chance de parvenir à nous échapper. Dans la grotte, nous serions coincés. La seule promesse que je pouvais me faire était qu'il n'aurait pas de voir. Lui trancher la gorge serait l'affaire d'un instant. Je n'étais pas convaincu de pouvoir me donner une mort aussi rapide, et encore moins à œil de nuit ou au fou. Dans l'abri, un petit feu flambait et l'odeur de la viande rôtie fit gronder mon estomac. Un bivouac avait été dressé, mais, à mes yeux, l'installation évoquait davantage un repère de brigands qu'un campement militaire, et cette pensée suscita ma méfiance. L'Audevin n'exerçait peut-être pas une autorité absolue sur ses hommes, et il fallait en tenir compte. Il lui obéissait, mais il n'en découlait pas obligatoirement qu'il lui était entièrement soumis. Cette idée inquiétante à l'esprit, je scrutais les ombres de la caverne pendant que l'Audevin s'entretenait à mi-voix avec les gardes postés à l'intérieur. Tous les regards étaient tournés vers lui, et nul ne s'occupait de moi. Accompagné du prince, j'en profitais pour m'écarter discrètement du gros de la troupe. Quelques hommes remarquèrent mon mouvement, mais aucun ne réagit. Le col ouvert de ma chemise laissait toujours voir l'amulette de Gina, et j'affichais un sourire innocent. En outre, je me dirigeais vers l'arrière de la cavité, non vers l'extérieur. Je vis néanmoins dans cette absence de discipline une nouvelle preuve de l'autorité toute relative de l'Audevin, et ma crainte que l'épi ne soit organisée en une sorte d'armée se mua en une effrayante angoisse, celle qu'il ne constitue une masse de vifiers au déchaînement imprévisible et aveugle. C'est mon cœur qui trouva mes amis avant mes yeux, et je distinguais deux formes serrées l'une contre l'autre, au fond de la grotte. Sans demander la permission, je me dirigeai vers elle, mon poignard toujours posé sur la gorge de Devoir. Au plus profond de l'antre, le plafond s'abaissait et les parois se rapprochaient, créant une sorte de renfoncement. C'est là que mes amis dormaient, sur le manteau du fou, ou du moins, ce qui en restait. À Œil de Nuit était couché sur le flanc, abandonné au sommeil de l'épuisement, et le fou, en chien de fusil, le tenait contre lui dans une attitude protectrice. Tous deux étaient affreusement crottés. Le front du fou était ceint d'un bandage, sa peau dorée avait une teinte plombée, et tout un côté de son visage portait des ecchymoses. On lui avait pris ses bottes, et ses pieds nus, étroits et pâles, paraissaient meurtris et vulnérables. Du sang et de la bave séchée encroûtaient la fourrure du loup au niveau de la gorge, et il sifflait en respirant. J'aurais voulu me laisser tomber à genoux auprès d'eux, mais je n'osais pas lâcher le prince. « Réveillez-vous, » fis-je à mi-voix. « Réveillez-vous tous les deux. Je suis revenu vous chercher. » Le loup battit des oreilles, puis il souleva une paupière et me vit. Il changea de position pour redresser la tête, et le mouvement dérangea le sommeil du fou qui ouvrit les yeux et me regarda d'un air abasourdi. Le désespoir se peignit sur ses traits. « Il faut vous lever, » repris-je, toujours à voix basse. « J'ai passé un marché avec les pies, mais vous devez vous tenir prêt à vous enfuir. Pouvez-vous marcher tous les deux ?» Le fou avait le regard ahuri d'un enfant qu'on a tiré de son lit en pleine nuit. Il s'assit à mouvement raide.
« Je... quel genre de marché ?»
Il avisa l'amulette à mon cou, fit un petit bruit de gorge et détourna les yeux. Je refermai rapidement mon col. Ce n'était pas le moment qu'un charme lui embrouille l'esprit, qu'une affection artificielle le retienne de se sauver quand il en avait l'occasion. L'eau de vin se dirigeait vers nous, la Marguette de Devoir à ses côtés. Il paraissait mécontent que j'aie pu m'entretenir avec ses prisonniers pendant qu'il avait le dos tourné. Je déclarai à haute et intelligible voix « On vous libère tous les deux, sans quoi je tue le prince. Mais dès qu'on vous aura relâché, le prince et moi vous suivrons. Faites-moi confiance. » Il n'était plus temps de parler avec eux seul à seul. Le loup se redressa lourdement en dépliant ses pattes avec difficulté. Quand il fut debout, il vacilla de l'arrière-train et dut faire quelques pas en crabe pour reprendre son équilibre. Il puait la sanie, l'urine et l'infection. J'aurais voulu avoir une main libre pour le toucher, mais j'étais trop occupé à menacer de voir. Il s'approcha de moi, appuya sa tête encroûtée de sang contre ma jambe, et nos esprits se joignirent grâce à ce contact. Oh, Œil de Nuit. Petit frère, tu mens.
Oui, je leur mens à tous. Peux-tu ramener seul le sans-auteur à Castelser?
Je ne pense pas.
Tu me rassures. J'avais peur de t'entendre répondre. Nous allons tous mourir ici.
Je préférerais rester pour mourir auprès de toi.
Et moi, je préférerais ne pas assister à ça. Ça me distrairait de ce que je dois faire.
Et Orti, alors?
Il me fallut faire un effort pour formuler ma réponse.
Je ne puis prendre la vie de l'un pour sauver l'autre. Je n'en ai pas le droit. Si nous devons tous périr, ma foi.
Ma pensée s'arrêta en cahotant. Il m'était revenu en mémoire les étranges instants que j'avais passés dans le flot de l'art, en compagnie de la grande présence inconnue, et je tentais d'y puiser quelque réconfort. Et si le fou se trompait? Il est peut-être impossible de faire dévier le temps. Le cours de notre vie est peut-être déterminé avant même notre naissance. Ou bien, il faut peut-être que le prochain prophète blanc choisisse un meilleur catalyseur. Je le sentis écarter mes réflexions philosophiques.
Dans ce cas, procure-lui une mort propre.
J'essaierai.
Notre échange mental n'était qu'un mince filet de vif rétréci par la douleur et la prudence du loup. Mais pour moi, c'était comme une ondée après une longue sécheresse, et je me reprochais amèrement les années où j'avais partagé ce contact sans en profiter pleinement, tant j'avais permis à mon âme de se laisser aller à sa soif de l'art. Cet échange arrivait à son terme, et c'était seulement à cet instant que je percevais le bonheur de tout ce que nous avions connu. Mon loup se trouvait à un pas de la tombe, et j'allais sans doute me suicider ou me faire tuer avant la fin de l'après-midi. La réalité répondait à la question déchirante de savoir ce que l'un allait devenir quand l'autre mourrait. Nous ne poursuivrions notre existence ni l'un ni l'autre. Le fou avait réussi à se relever. L'air d'une bête aux abois, il m'interrogeait de ses yeux dorés, mais je restais impassible. Il redressa le dos et redevint cire dorée alors que l'eau de vin s'adressait à lui. Le chef d'épis avait une voix ample et bien timbrée, et sa force de persuasion évoquait un manteau chaud et moelleux. Derrière lui, ses compagnons se déployèrent pour assister à l'entretien.
« Votre ami vous a résumé la situation. Je l'ai convaincu, preuve à l'appui, que nous ne voulions pas de mal au prince et que nous n'avions qu'un seul désir. » Lui montrer que ceux que vous appelez vifiés ne sont pas des êtres maléfiques qu'il faut réduire en pièces, mais de simples mortels à qui Edda a fait un don particulier. C'était notre unique souhait. Nous regrettons les extrémités auxquelles nous a mené le malentendu qui nous a opposés et les blessures qui en ont résulté pour vous. Vous pouvez à présent reprendre votre monture et partir librement, ainsi que le loup. Votre ami et le prince vous rejoindront dans peu de temps, et vous retournerez tous à Castelcerf, où nous formons le vœu fervent que le prince de Voir parle en notre faveur. »
Le regard de Cire Doré se porta sur moi avant de revenir sur l'eau de vin.
« Et quelle est la raison de ce poignard ?»
L'homme eut un sourire ironique.
« Votre serviteur ne se fit guère à nous, malheureusement. Malgré toutes nos assurances de bonne foi, il se croit obligé de menacer le prince en attendant d'être certain de votre libération. Je vous félicite de son dévouement. »
On aurait pu faire passer un troupeau entier par la faille de sa logique, et le seigneur Doré eut un infime tressaillement des pupilles qui me fit comprendre qu'il avait des doutes. Mais je hochai discrètement la tête, et il acquiesça au propos du pie. Il ignorait les règles du jeu et s'en remettait à moi. Avant la fin du jour, il se reprocherait amèrement cette confiance, mais je barricadais mon cœur contre cette pensée. Il n'y avait pas meilleure solution que le triste maquignonnage auquel je m'étais livré, et c'est seulement par un effort de volonté que je persistais dans ma trahison. Monseigneur, si vous voulez bien partir avec mon bon chien, je vous rejoindrai bientôt en compagnie du prince.
Je doute que nous fassions beaucoup de chemin aujourd'hui. Comme vous le voyez, votre chien est gravement blessé.
Inutile de vous presser. Je vous rattraperai bientôt et nous pourrons rentrer tous ensemble. L'expression du fou demeura soucieuse mais calme. J'étais peut-être le seul à savoir à quel dilemme il était en proie. La situation lui restait incompréhensible, mais je souhaitais manifestement qu'il s'en aille avec le loup, et il prit finalement sa décision. Il se baissa pour ramasser son manteau, naguère magnifique et à présent maculé de sang et de terre. Il le secoua, puis le jeta sur ses épaules d'un geste plein d'élégance, comme s'il n'avait rien perdu de sa beauté.
« Naturellement, je présume qu'on va me rendre mes bottes et mon cheval. »
Il était redevenu l'aristocrate conscient de sa supériorité innée.
« Naturellement, »
répondit l'Audevin, mais je vis plusieurs visages se renfrogner derrière lui. La qualité de Malta en faisait un superbe butin pour ceux qui avaient capturé Cire Doré.
« Dans ce cas, mettons-nous en route. Tom, vous nous suivez rapidement, n'est-ce pas ?»«
Bien sûr, maître, » mentis-je avec humilité.
« En compagnie du prince. »«
Je ne partirai que s'il me précède, » répondis-je avec une sincérité non feinte.
« Parfait. »
Sire Doré hocha la tête, mais le fou me lança un regard troublé. Puis il se tourna vers Laudevin avec une expression glaciale. « Vous ne m'avez pas mieux traité que ne l'auraient fait de vulgaires bandits de grand chemin. Et il me sera impossible de dissimuler mon état à la reine et à sa garde. Vous avez beaucoup de chance que Tom Blaireau et moi-même acceptions d'affirmer à Sa Majesté que vous avez reconnu vos erreurs, sans quoi elle aurait assurément envoyé ses troupes pour vous exterminer comme des animaux nuisibles. »
Il était parfait dans son rôle de gentilhomme indigné, mais je dus me retenir de lui hurler de se taire et de filer tant qu'il en avait l'occasion. Durant ces échanges, la Marguette avait couvé de voir du regard comme un chat surveille un trou de souris, et il me semblait presque sentir l'envie dévorante de la femme de le posséder complètement. Pas plus qu'aux comparses de Laudevin, je ne lui faisais confiance pour honorer la parole donnée par le chef des Pies. Si elle faisait mine de s'emparer du prince, s'il manifestait le moindre signe qu'elle l'investissait, je serais obligé de le tuer, que le fou soit parti ou non. Il fallait absolument que mes amis s'en aillent. Je plaquai un sourire sur mes lèvres en espérant qu'il n'évoquait pas trop un rictus de fauve, tandis que Sire Doré défiait Laudevin des yeux, puis poussait l'audace jusqu'à parcourir de son regard ambré les hommes assemblés. J'ignore ce qu'ils en pensèrent, mais je fus convaincu que le fou avait gravé chaque visage dans sa mémoire. Plusieurs eurent une réaction de colère devant le mépris qu'il affichait. Pendant ce temps, rançon de la vie de mes amis, mon poignard sur la gorge, le prince conservait une immobilité parfaite, comme si rien ne troublait son esprit. Il soutenait calmement le regard de la Marguette, et je préférais ne pas imaginer ce qui se passait entre eux, même quand l'animal détourna les yeux et fit comme s'il n'existait plus. Sous l'affront que lui avait infligé Sire Doré, les traits de Laudevin se durcirent un instant, puis il se domina. « Vous devez rendre compte à la reine, c'est évident. Mais lorsqu'elle aura entendu de la bouche de son propre fils le récit de ses expériences, peut-être montrera-t-elle plus de compréhension pour notre position. » Il fit un petit geste de la main, et après une seconde d'hésitation, ses hommes s'écartèrent pour laisser un passage entre eux. Je n'enviais pas à Sire Doré sa traversée de ce couloir d'animosité. Je baissai les yeux vers Œil de Nuit. Il se plaça contre ma jambe et s'y appuya longuement. Je me concentrai pour réduire mes pensées à la taille d'une tête d'épingle. « Tairez-vous le plus vite possible, emmène-le sans odeur à l'écart de la route et cachez-vous du mieux que vous pourrez. » Il me répondit par un regard insupportablement douloureux. Et puis, nos esprits se séparèrent. Il partit à la suite du fou, la démarche raide mais digne. J'ignorais quelle distance il parviendrait à couvrir, mais au moins, il ne mourrait pas dans cette grotte au milieu de chiens et de marguets qui le haïssaient, et le fou serait auprès de lui. Maigre consolation, mais je n'avais pas trouvé mieux. Dans la lumière de l'entrée voussée de l'abri, je vis Malta qu'on amenait à son maître. Il prit les rênes, mais ne monta pas en selle, et se mit en route à pas lents afin de permettre à Œil de Nuit de le suivre. Je regardai l'homme, la jument, et le loup s'en allait. Leurs silhouettes diminuèrent, et je repris brusquement conscience de devoirs que j'étreignais toujours et qui respiraient au même rythme que moi. La vie s'éloignait de moi, et j'en serrais la mort. « Si vous saviez combien je regrette !» chuchotai-je à l'oreille du garçon. « Ce sera rapide, je vous le promets. » Il avait déjà compris, et c'est à peine si la réponse de mon fils agita l'air.
Pas tout de suite. Une petite partie de moi-même m'appartient encore. Je pense pouvoir la tenir en respect quelque temps. Laissons-les couvrir le plus de distance possible.